Et le Seigneur, encore une fois, est vivant.
The Lord is alive.
Et il sait agencer les événements.
And he knows how to sequence events.
Pour nous toucher.
And he knows how to touch us.
Et cette semaine,
and this week,
jeudi dernier,
last Thursday,
il m'a mis dans une situation que je n'attendais pas.
The Lord put Peter into a situation that was very unexpected.
Mais qui va avec en fait l'enseignement de cette semaine.
But it actually, goes with the teaching this week.
Nous avons été, Nancy et moi, convoqués par professeur de Sébastien.
Nancy and Peter were called by Sebastian's teacher.
Pour des problèmes de discipline.
Because of discipline problems.
Et sans rentrer dans les détails pour ne pas l'embarrasser. Je me suis trouvé dans la situation d'un père qui doit discipliner son enfant. Et suivant les tempéraments, il y en a qui aiment faire ça.
And, some people like disciplining their children.
D'autres n'aiment pas trop.
Some find it difficult.
Et pourtant, c'est une responsabilité sérieuse et très solennelle que Dieu donne aux parents.
This is a very serious and solemn responsibility that God gives to parents.
Ça va à l'encontre de ce que le monde enseigne.
And this is not what the world teaches us.
Même le professeur qui nous avait convoqué a demandé à ce qu'on ne punisse pas l'enfant. Parce que punir, c'est pas être cool dans notre société.
It's not cool to punish in our society.
On le voit dans les lois, dans les affaires d'emprisonnement où c'est plutôt le coupable qui est protégé que la victime.
This we see in situations every day where those that are guilty of crimes are actually protected.
Et je dois dire que si je n'avais pas l'impact et l'apport de la vérité de la parole dans ma vie, je penserais aussi de la même façon.
And Pierre says that he would probably think the same way if he didn't have the impact of the word of God in his life.
Et la parole est pleine de versets qui nous disent que la discipline, c'est une chose que l'on, dont on a besoin. Et j'aimerais peut-être juste qu'on regarde ensemble quelques versets dans Hébreux 12. Verset 5. C'est page 256 dans la Bible bleue, dans la deuxième partie du Nouveau Testament, page 256. Verset 5, il dit, parlant, c'est l'auteur, on ne sait pas si c'est Paul, c'est peut-être Apollos, mais peu importe. Il leur dit, il s'adresse particulièrement aux Hébreux en leur disant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Verset 7, supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous on part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. En quelques versets, on a ce que la Bible nous apprend sur la discipline, la correction. Et la première chose, c'est que si on ne discipline pas quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas. Et je sais que peut-être vous vous rappelez de fessées qu'on vous a données lorsque vous étiez enfant.
Probably all remember a good hiding you got when you were a child.
A spanking, hiding. Et vos parents vous ont peut-être dit, ça me fait plus de mal à moi qu'à toi, mais je dois te punir.
And maybe your parents said, no, this is hurting me more than it's hurting you, but I've got to do it.
Et bien sûr, vous disiez, bien sûr, c'est.
You said, oh yeah.
C'est une excuse facile.
I believe you.
Pourtant, quand j'ai dû moi aussi donner la fessée à mes enfants, c'est vrai que quelque part ça fait mal. Mais il est dit que au début, c'est jamais un sujet de joie, recevoir une correction. Mais plus tard, elle procure un fruit paisible de justice et de paix. Et encore une fois, je ne vais pas discipliner, donner des fessées aux enfants des voisins. Je dois discipliner les miens. Il y a des fois, j'ai peut-être envie de donner une discipline aux enfants des autres. Mais j'ai la responsabilité des miens. Tout ça pour dire que la Bible est très ferme sur ce principe de corriger qui est complètement à l'opposé de ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Les proverbes sont pleins de rappels, comme Proverbe 3:12 qui dit « L'Éternel réprimande celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit ».
Proverbs is full of verses about discipline. In Proverbs 3:12 it says, "The Lord disciplines those he loves, as a father the son he delights in."
Ou le proverbe 13:24 qui dit, "Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger."
He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him.
Des fois, on peut corriger dans un mauvais sens.
Of course, we can correct our children in a bad way, in a bad sense.
Dans un sens égoïste.
When we're being selfish about it.
Je pourrais dire, Sébastien, qui est le fils du pasteur, doit bien se conduire à l'école, sinon c'est un mauvais témoignage pour le pasteur, pour l'église, pour Dieu.
Here, so you could say Sebastian, who's the pastor's son, should be good at school, because otherwise it's a bad witness at school.
Et souvent, quand on corrige parce que on a notre propre réputation à l'esprit, c'est une mauvaise correction, c'est un mauvais motif. Mais il est vrai qu'il y a un proverbe qui dit « Corrige ton fils et il te donnera du repos ». Alors, si vous avez lu le passage aujourd'hui, vous vous demandez peut-être quel est le rapport. Nous sommes au chapitre 4 de 1 Corinthiens. Et nous allons lire les versets 8 à 21. Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe. Et il leur dit, déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes glorieux et nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons. persécutés, nous supportons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enorgueillis comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec un fouet, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Nous allons nous arrêter là. Et en quelque sorte, ici, Paul se présente comme le père de l'église de Corinthe. Et si vous vous souvenez de notre étude dans l'Apocalypse, Paul s'attaque au même problème que Jésus confrontait. Le problème d'une église qui pense avoir tout bien, tout juste. Regardons rapidement dans Apocalypse 3:14.
So let's turn to Revelation 3:14.
Vous savez que Jésus écrit, dicte des lettres à Jean sur sept églises qui représentent des églises de l'époque, mais aussi l'église universelle. Et il écrit notamment à l'église de Laodicée.
And he's here in particular writing to the church of Laodicea.
Apocalypse 3:14.
And Revelation 3:14.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. On va nous arrêter là. Des paroles très fortes pour cette église qui se croyait riche. On en avait parlé. Ils ne sont pas bouillants, d'accord, mais ils sont pas complètement opposés à l'Évangile.
We see that they neither cold nor hot.
Et pourtant, Jésus dit que ça lui donne mal au cœur, une église pareille. Il a des mots très, très forts, on dit des fois cracher, mais là il dit vraiment, le mot c'est vomir, comme quelque chose qui nous rend malade. Et il leur dit de prendre du collyre, c'est-à-dire un remède pour leurs yeux parce qu'ils ne voient pas leurs problèmes. Ils se croient riches et qu'ils n'ont besoin de rien, alors qu'en fait ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et c'est le contexte de la lettre de Paul aux Corinthiens. Vous rappelez qu'il y avait un problème de division. Il se divisait en petites cliques autour de certains responsables, de certains leaders. Paul leur écrit cette lettre pour les corriger.
And Paul wrote this letter so as to correct them.
Et il dit, il n'y a pas de besoin de mettre les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes en compétition. Il leur parle de ce que doit être une église.
And he teaches them what he thinks a church should be.
Il a dit comme une plante.
Should be like a plant.
Il y en a un qui va planter, l'autre qui va arroser, mais c'est Dieu qui fait pousser.
And he says that some might be sowing the seed and planting, some might be watering it. But God is the one that makes it grow.
Et puis si on veut faire un bâtiment,
if we want to build a building,
il faut construire sur une seule fondation.
It has to be built on only one foundation.
Une fondation qui soit solide, et cette fondation c'est Jésus-Christ. C'est pas Apollos, Paul, Pierre, Jacques, peu importe.
Not Apollos, Paul and all the other apostles.
Et puis il leur rappelle qu'en fait, ils sont... Collectivement, ils sont le temple de Dieu, que Dieu habite au milieu d'eux. Et au chapitre 4, il leur dit qu'en fait, un responsable, ça doit être avant tout un serviteur. À l'image de Christ, on ne vient pas pour être servi, on vient pour servir.
Just like Jesus Christ, he didn't come to be served, but to serve others.
Et ce qui est un peu comique, c'est que ces gens cherchent à la gloire personnelle en s'associant à des responsables. Et Paul leur dit, en fait, ces serviteurs de Dieu, ça doit être comme des rameurs de fond de cale. Dans les navires de guerre romains, il y avait ces rangées de rameurs qui étaient attachés à leurs bancs. Et celui qui est le plus méritant comme responsable, c'est celui qui est le plus bas et qui tire le plus fort. C'est l'abnégation, c'est la souffrance, c'est la persévérance. Il n'y a pas de gloire. Et puis ensuite, il leur dit que un serviteur, c'est qu'un administrateur de biens.
And he says that a servant is only an administrator.
Un administrateur, c'est quelqu'un qui gère des biens qui ne lui appartiennent pas pour le compte de quelqu'un d'autre.
So an administrator is somebody that administrates other people's goods, goods that don't belong to him.
L'évangile, l'église, ça n'appartient pas aux pasteurs ou aux évangélistes.
So the church and the word of God does not belong to the pastor or to preachers or the church.
Elle appartient à Christ.
Belongs to Christ.
Et notre responsabilité, c'est d'être de bons administrateurs qui sommes trouvés fidèles.
And our responsibility is to be a good administrator so that we will be found faithful and loyal.
Donc on va voir qu'il va développer cette idée, qu'est-ce que doit être un responsable d'église. Donc premièrement, un administrateur fidèle.
He should be faithful.
Et puis les versets 8 à 13 que nous avons lus, il va alors expliquer qu'un responsable d'église, un pasteur, un ancien, c'est quelqu'un qui doit être avant tout humble. Et au départ, quand on lit le passage, le verset 8 notamment, on n'est pas sûr de ce qui se passe là. Suivant le ton qu'on utilise pour lire ce passage,
depends also on the way exactly we read it.
En fait, il faut bien comprendre qu'il est là, il est très sarcastique.
Paul is actually being a little bit sarcastic.
Il est caustique.
He's being quite caustic.
Il leur dit, vous les chrétiens de Corinthe, vous vantez les uns des autres comme si vous étiez des rois sur un trône. Ça doit être formidable de pouvoir régner comme ça en méprisant tous les autres. Moi, j'aimerais bien être dans votre place aussi, en fait.
I wish I could be like that.
Malheureusement pour moi, je suis qu'un pauvre apôtre.
Unfortunately, I'm only a poor apostle.
Que le monde déteste.
Nobody likes me.
Je suis un fou pour la cause de Christ.
Men think that I'm a fool for Christ.
Et je présente en quelque sorte un spectacle affligeant pour le monde. Et quand, au verset 9, il parle des... Nous sommes les derniers des hommes condamnés à mort puisque nous avons été en spectacle au monde. Il fait référence à une pratique bien connue dans le monde de l'Empire romain. C'est la pratique du triomphe.
There was a certain spectacle or a
triumph.
Triumph. Triumph.
Mm-hmm. Comme l'arc de triomphe.
Like the arc, arch de triomphe.
Si vous avez vu hier la finale ou la remise des prix de la finale de femmes du tennis de Roland-Garros.
Some of you might have seen the prize-giving ceremony of the finals of Roland-Garros.
Vous avez vu que c'est jamais très gai pour celui qui termine second.
It's never very nice for those that are second.
Mais on leur donne un espèce de saladier quand même.
They get some sort of salad bowl.
Et puis un petit mot gentil de celle qui voulait la tuer il y a quelques secondes auparavant.
And then the person that won actually speaks to them in a nice way.
Mais à l'époque, les vainqueurs ne montraient pas tant de mansuétude vis-à-vis des vaincus.
But in those days, winners weren't so nice to those that they'd beaten.
Et lorsqu'un général romain revenait d'une campagne victorieuse avec ses troupes, il défilait à la tête de son armée,
he would be in front of his army.
Il passait sous des arcs de triomphe.
There were lots of different, triumph arches.
C'est pas ce qui s'était passé avec la victoire de la France en Coupe du Monde.
This reminds me of the French football team.
Mais ce qui était terrible, c'est que dans l'armée, à sa suite, il y avait les armées des ennemis qui défilaient.
So afterwards, he had the armies that they had beaten.
Il y avait d'abord les nobles, les généraux de l'armée.
The aristocracy, the nobles of the enemy army were there.
Et puis à la fin, c'était les pauvres soldats qui de toute façon étaient perdants des deux côtés, mais qui allaient être mis à mort.
And right at the end, there were the foot soldiers that were going to be put to death.
À l'époque, vous vous souvenez de ces cirques où on jetait les condamnés à mort en pâture à des bêtes sauvages.
So in those days, there was a Roman circus where men that were condemned to death were just thrown to wild animals.
Et Paul, c'est exactement ce qu'il dit à ces Corinthiens qui se croyaient, qui étaient imbus de leur personne.
And Paul is explaining that this is the way he feels to those Corinthians that are so sure of themselves.
Vous êtes des rois, mais moi je suis comme un de ceux qui sont à la fin de la file. Qui vont être jetés à mort. Et ça va lui permettre de faire toute une espèce de comparaison pour remettre les Corinthiens, les chrétiens corinthiens orgueilleux à leur place. Il leur dit d'abord que ils sont rassasiés.
Verset 8.
Ils ont le sentiment, entre guillemets, d'être arrivés.
So they think that they've really made it.
Qu'est-ce qui peut pousser une église à penser qu'elle est arrivée?
So why would a church think that it's made it?
La bonne chose dans une petite église comme la nôtre, c'est qu'on n'a pas encore ce sentiment et on est loin d'avoir ce sentiment. Mais imaginez qu'on soit une église de 1000 personnes avec un grand bâtiment. Peut-être qu'on commencera à se dire, oui, nous, on sait ce que c'est que de servir le Seigneur.
Maybe we might start feeling really sure of ourselves.
Ou peut-être on serait très riche.
Or maybe we'd be very rich.
On aurait des terrains, des bâtiments.
We'd have lots of buildings or pieces of land.
On serait connu peut-être de la municipalité.
Maybe the municipality would know us.
Peut-être qu'on serait invité aux manifestations publiques.
We might even be invited to public, shows.
Ou alors on peut se croire supérieur parce qu'on pense avoir tous les dons spirituels.
Or maybe we think that we're superior because we have all spiritual gifts.
Dans la Bible, on peut compter une vingtaine de dons spirituels.
If we read the Bible, we can count over 20 spiritual gifts.
Et rappelez-vous, Paul leur a dit, vous êtes, il ne vous manque aucun don. Ils avaient tous les dons spirituels.
They have all the spiritual gifts.
Les dons les plus spectaculaires.
The most spectacular ones.
Les miracles, les guérisons.
Miracles, healings.
Le parler en langue, les prophéties.
To be able to speak in tongues, prophesying.
Même les dons qu'ils considéraient comme moins importants parce qu'ils n'étaient pas spectaculaires, les dons de service, d'administration.
And even those gifts that were considered less important. Because they weren't spectacular, like service and administration.
Les dons de sagesse, de connaissance, de générosité.
Gifts of wisdom, knowledge, generosity.
Et au passage, ça nous rappelle que les dons de l'esprit, c'est pas tout. Les dons, ce sont des outils pour servir Dieu.
Those gifts are just tools that we have to use to be of service to God.
Et si on cherche à servir Dieu, on peut demander, on doit demander des dons pour le faire.
And if we really want to serve God, we have to ask for gifts to be able to serve them.
Mais les dons, ça doit jamais être des objets de fierté personnelle ou collective.
But these gifts should never be an object of personal pride.
Peu importe, ils pensaient qu'ils étaient riches.
Anyway, these Corinthians were persuaded that they were rich.
Mais entre les versets 7 et 9, Paul va leur dire, vous croyez des rois, moi je me considère comme un prisonnier qui va être jeté au lion.
So we see here that Paul says, you might consider yourselves as kings, but I consider myself as a prisoner, and I'm going to be thrown to the lions.
On raconte que les gens qui étaient ainsi jetés dans les arènes devaient dire à César, nous qui sommes sur le point de mourir, nous te saluons.
Remember that those people that were condemned to death just before they would go in and fight with those animals, they had to salute Caesar.
Paul veut leur expliquer qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil dans le service de Dieu.
And Paul's trying to explain to them that there's no place for personal pride when it comes to service to God.
Si le grand apôtre Paul,
because if the great apostle Paul
disait qu'il se considérait en quelque sorte comme la dernière attraction du programme. Qui peut être assez fou pour vouloir s'enorgueillir de ses talents, de ses résultats? Et ça doit vous mettre en garde de, je sais que c'est pas le cas, de jamais exalter, mettre sur un piédestal les responsables d'église.
And this should warn all of us not to never put on a pedestal the person who's responsible of the church.
Vous pouvez avoir de l'amitié, de l'amour fraternel, de la reconnaissance, mais pas de les mettre à une place qui n'est pas la leur, qui appartient seulement à Christ. Puis il leur dit, vous croyez comme des sages.
Paul says, you consider yourself to be wise.
Moi, je préfère me considérer un fou pour Christ.
But I consider myself to be a fool for Christ.
Ça, c'est le titre de plusieurs groupes ou chants, des Fools for Christ, des Fous de pour Christ.
So, lots of different songs or even groups have this title, Fools of Christ.
Paul était fou aux yeux du monde parce qu'il il avait rejeté tout ce que le monde adulait.
So, the world considered Paul to be totally crazy, to be a fool, because he threw away everything that's important in the world's eyes.
Il avait reçu la meilleure éducation possible.
He had the best possible education.
Il avait fait l'X, les mines et l'ENA.
He did all the big French schools.
Parce qu'il avait été élève de Gamaliel, le meilleur rabbin.
Because he was a pupil of one of the best or the best rabbi at that time.
Il était à la Chambre des députés.
He was a deputy.
Dans le sens où il était membre du Sanhédrin.
Because he was a member of the Sanhedrin.
La cour de justice religieuse des Juifs, la plus haute autorité juive du moment.
It was the highest court of justice in the Jewish world.
Il était respecté par ses pairs.
All the people around him respected him.
Mais il avait rejeté tout ça.
But he just let go of all that.
Et lorsque sur le chemin de Damas, Jésus l'avait interpellé, il avait demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
And as he was on his way to Damascus, when Jesus called him, he said, what do you want me to do?
Ça, c'est pour le monde, c'est de la folie.
The world considers this to be funny.
Mais nous avons déjà lu le verset 1 Corinthiens 3, 18.
But we've already read 1 Corinthians 3, 18.
que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, donc selon la sagesse du monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage.
So it says, do not deceive yourselves. If any one of you thinks he is wise by the standards of this age, he should become a fool so that he may become wise.
Quelque part, être chrétien, c'est une folie pour les gens qui ne sont pas croyants.
Those people that aren't believers think that Christians are a bit crazy.
Ordonner sa vie pour quelqu'un qu'on ne peut pas voir.
To organize your life around somebody that you can't even see.
Croire par la foi.
To believe through faith.
Au lieu de pouvoir toucher, de pouvoir voir.
Instead of being able to touch or to see.
C'est une folie.
And it's true, it seems like a folly.
Mais il y a un missionnaire, Jim Elliot, qui avait dit « Il n'est pas un fou celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Je vais le traduire. « He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. » Toute cette richesse, tous ces privilèges humains, un beau jour, il faudra les laisser. Mais la relation avec Christ, c'est quelque chose que personne ne nous prendra pour l'éternité. Amen. Comme faible, vous êtes fort. Savoir qu'on est faible, ça peut être une force. Croire qu'on est fort, ça peut être une grande faiblesse. Zinedine Zidane a dit il vaut mieux pas être favori. On dit avoir la grosse tête. Et il y a la sagesse de voir que ça peut être un sujet de faiblesse. Mais je le crois parce que Paul l'a dit, pas parce que Zinedine l'a dit. Dans 2 Corinthiens, Paul exprimait cette chose en disant, on peut s'y tourner, c'est un passage clé. 2 Corinthiens 12.
2 Corinthiens 12.
Verset 9. Paul partage qu'il a, il avait un problème, une écharpe dans la chair.
Paul is here showing with him that he actually has a thorn in his flesh.
On ne sait pas si c'est un problème de péché ou bien un problème de maladie.
We don't know if this is a problem with sin or whether it's a physical weakness or illness.
Il a demandé au Seigneur de l'enlever.
He asked the Lord to take it away from him.
Et verset 9, il nous dit, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
So, verse 9 says, but he said to me, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness.
Ça veut dire que lorsque nous reconnaissons, lorsque nous avons la justesse de voir que en fait nous sommes faibles, alors là nous allons vers Dieu,
then we're moving towards God.
La seule source de vraie force et de vraie sagesse. Donc la faiblesse qui se reconnaît comme faiblesse est une force. Amen. Il leur dit aussi, verset 11, qu'il a la galère n'est pas finie pour lui. Pardon, merci.
To this very hour we go hungry and thirsty, we in rags, we brutally treated, we homeless.
Toujours exposé à la faim, il n'a pas à manger à sa faim, il souffre de soif, il est dénué de toute chose, il est subi au coup, il n'a pas de domicile fixe, mais malgré ça, il veut travailler de ses mains.
So even if he has all these bad things happening to him,
l'inverse de l'image de quelqu'un qui croit tout avoir.
And this is exactly the contrary of somebody who thinks that he has everything.
Plus loin, Paul dira qu'un serviteur mérite un salaire.
Later on, we'll see that Paul says that somebody who's working deserves a salary.
Mais il voulait être un exemple de travail dur, de dur travailleur.
But he wanted to be an example of somebody that worked hard.
Il voulait leur montrer qu'il il s'imposait une discipline. Ça aussi, c'est quelque chose que notre monde a tendance à oublier. Il y a une fine limite, une limite sensible entre l'aide qui est bonne et l'aide qui est mauvaise, parce qu'elle continue à entretenir l'idée de dépendre d'autres. Il leur dit, vous cherchez la gloire, moi je me considère comme, verset 13, comme une balayure, comme des balayures, le rebut de tous. Si vous passez de temps en temps le balai sous votre lit,
those of you that sweep under your beds from time to time.
Surtout si vous le faites pas très souvent.
Especially if you don't do it often.
Vous allez retrouver des choses oubliées.
You'll find some forgotten objects.
De la poussière, du sable, des petits cailloux peut-être. Nous habitons au rez-de-chaussée.
Little stones, even or dust.
Et puis ces gros moutons, on ne sait pas d'où ils viennent.
And these big rolls of
c'est pas glorieux.
Not glorious at all.
Et Paul dit qu'il se sent comme un mouton sous le lit.
And Paul is actually saying, I feel like one of those dust balls under the bed.
Puis le mot qu'il utilise pour rebut, c'est lorsqu'on on gratte une casserole où il y a eu du lait brûlé avec des pâtes ou quelque chose. C'est l'idée. Il a aucune sentiment de gloire personnelle. Il dit, moi qui suis apôtre et les autres apôtres, on n'est des rien du tout.
So we see that Paul really doesn't have any intention or he doesn't have any feeling that he's actually glorious.
Donc il veut leur dire qu'un pasteur, un responsable d'église, un serviteur de Dieu, il doit être humble.
So he's showing here that every person that's responsible for the church or has a responsibility in the church or is a servant of Christ has to feel totally humble.
Et puis le reste du chapitre, versets 14 à 21.
So in verses 14 to 21.
Il leur dit que cette personne doit se montrer tendre comme un père. Paul avait en quelque sorte fondé la famille. Il les appelle ses enfants bien-aimés. Et il leur dit, verset 15, vous pouvez avoir des tas d'instructeurs.
Verse 15 it says even though you have 10,000 guardians in Christ.
C'est pas grave. Vous avez cependant un seul père.
You do not have many fathers.
Et il dit, c'est moi qui suis votre père spirituel.
So I am your spiritual father.
Jésus a dit que nul n'appelait personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux.
Jesus said that we shouldn't call anybody on earth father because there's only one father, that's father that's in heaven.
Mais Paul là ici se présente comme celui qui a participé à la naissance.
But here Paul presents himself as somebody who assisted at a birth.
C'est pas lui qui les a fait naître.
He's not the one that made them come to life.
Mais c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile.
I became your father through the gospel.
Ils sont nés parce que Christ est là avec son esprit à l'œuvre.
And they were actually born because Christ is there with his Holy Spirit working.
Ils sont nés parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu.
They were born because they'd heard the word of Christ.
Et ils ont entendu grâce au prédicateur.
And they heard because somebody had preached this word to them.
Quelque part, c'est un privilège qui nous est tous réservé. Tous nous pouvons amener des gens à Dieu en partageant la parole de Dieu et en laissant l'Esprit de Dieu, Christ, faire son œuvre dans le cœur des gens. Donc, il leur dit, vous pouvez aller voir les autres, mais c'est moi qui était là quand vous êtes nés.
So he said, of course you can go and see the others, but I was the one who was there when you were born.
Ça crée une relation spéciale.
This creates a very special relationship.
Et je sais que personnellement, le pasteur à qui m'a présenté l'évangile lorsque je l'ai reçu, il a une place spéciale dans mon cœur. Il n'est pas Christ, mais je le remercie d'avoir été là au bon moment. Paul était aussi un exemple, versets 16 et 17, pour la famille. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs.
Therefore, I urge you to imitate me.
On peut penser que c'est un peu arrogant.
This might seem a little bit arrogant.
Il y en a qui pensent que c'est un peu arrogant de dire, si vous voulez être un bon chrétien, imitez-moi.
Those who want to be a good Christian, just imitate me.
Paul n'a pas peur de le dire à plusieurs reprises.
Paul actually repeats this idea several times.
Il le dit plus tard, on verra, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, frères.
Be my imitators, brothers.
Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous.
Look at him who walks,
at those.
Look at those that walk according to the model that you have.
Et quelque part, si on a du mal à dire « Soyez de bons chrétiens, vivez comme moi », c'est peut-être parce qu'on sait qu'on a des choses à se reprocher. Mais il est très important d'avoir des modèles.
But it's very important to have models in life.
Et ce qui est grave, c'est que qu'on le veuille ou non, on est le modèle de quelqu'un. Et c'est justement des choses qui m'a beaucoup tourmenté jeudi soir. En me disant, est-ce que dans mon exemple, j'ai influencé Sébastien dans le mauvais sens? Le Premier ministre hier disait que lorsqu'il a suivi Roland Garros à la télé, il joue mieux au tennis. Et lorsque nous voyons des chrétiens vivre avec du zèle, avec de la sainteté, avec de la fidélité, ça nous encourage nous aussi à vivre de la sorte.
Model like Christians living, then we know that we can also follow their example.
Mais c'est surtout le Père qui a une grande influence.
It's especially the Father that should have a great influence in our lives.
Pour ceux qui, certains connaissent mon pasteur aux États-Unis.
For those that know Pierre's pastor in the United States.
Et certains disent que par certains traits je lui ressemble.
And some say that Pierre seems to resemble him.
On a tendance à suivre le Père.
We have a tendency, or they have a tendency of following the Father.
Et puis finalement, Paul discipline la famille avec fidélité.
And we also see that Paul is here disciplining the family with faithfulness.
Il leur dit, j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ces orgueilleux. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole et en puissance, histoire de dire, ils peuvent parler beaucoup, mais on va voir vraiment quels sont leurs fruits, comme disait Jésus.
In verse 19, it says, but I will come to you very soon, if the Lord is willing, and then I will find out not only how these arrogant people are talking, but what power they have.
Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec un fouet ou avec amour et dans un esprit de douceur?
What do you prefer? Shall I come to you with a whip?
Autrement dit, est-ce que vous voulez changer maintenant ou est-ce que vous voulez persévérer dans vos erreurs jusqu'à ce que je revienne avec le fouet? La discipline doit être exercée Nous verrons dans la suite du chapitre 5 que Paul va parler de la discipline dans l'Église.
Paul will speak about discipline in the church.
Une illustration de ce principe de la discipline se trouve dans l'Ancien Testament avec les fils d'Eli.
An illustration of this discipline can be found in the Old Testament, the sons of Eli.
Eli était donc un prophète.
Eli was a prophet.
Qui était respecté.
Very respected prophet.
Qui avait un vrai ministère puissant.
He had a very powerful ministry.
Mais il négligeait ses enfants.
But he didn't spend enough time with his children.
Il est dit que les fils d'Eli étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel.
And it says that those children that Eli were
no good.
Oh, no good. They didn't know the Lord.
1 Samuel 2:12, if you want to turn. C'est dans 1 Samuel 2, on va peut-être lire quelques versets.
1 Samuel 2.
Chapitre 2,
chapitre 2,
verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et il est dit que, au verset 22, que Élie était fort âgé, verse 22, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël, donc il avait mis du temps avant de réaliser ce qui se passait.
In verse 22, we see that now Eli, who was very old, heard about everything the sons were doing to all Israel. We see that he really took a very long time before he started reacting.
Il apprit aussi, verset 22, qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre.
In verse 22, we see, and now they slept with the woman who served at the entrance to his tent of meeting.
Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses?
So he said to them, why do you do such things?
Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions.
I hear from all the people about these wicked deeds of yours.
Mais si vous lisez tout le chapitre, c'est la limite de sa colère.
But if we read this whole chapter, we'll see that this is as far as his discipline goes.
C'est pas bien ce que vous faites.
It says it's not a good thing.
Et comme Eli n'utilise pas le bâton de la discipline, c'est Dieu qui va prendre ce bâton.
God decides to take up this rod.
Et au verset du chapitre 3, verset 11,
and chapter 3, verse 11,
l'Éternel dit à Samuel le prophète, « Voici que moi je vais faire en Israël une chose qui fera que les deux oreilles de quiconque l'entendra en tinteront. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui déclarai que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité. » À cause de la faute qu'il connaît et par laquelle ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais la faute de la maison d'Élie ne sera expiée ni par des sacrifices ni par des offrandes.
At that time I will carry out against Eli everything I spoke against his family from beginning to end. So I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons made themselves contemptible and he failed to restrain them.
Et verset 11 du chapitre 4, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent.
And in verse 11 of chapter 4 we read, the ark of God was captured and Eli's two sons, Ophni and Phinéas, died.
La discipline.
So here we see that lack of discipline.
Je crois que ça doit nous parler aujourd'hui, non seulement dans nos vies, dans notre vie d'église, mais aussi dans notre vie familiale, personnelle.
But also in our personal lives.
Et je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour suivre de près nos enfants. Des fois ça peut être écrasant.
Sometimes it's a difficult thing to do.
Certains ont des tempéraments plus difficiles que d'autres.
Some children are more difficult than others.
Mais Dieu nous donne une responsabilité solennelle.
But
Si nous ne les disciplinons pas, c'est que nous ne les aimons pas vraiment. Et nous verrons la semaine prochaine comment, ça, Dieu voulant, comment ça s'applique aussi dans l'Église. Et on peut apprécier l'œuvre que Paul a fait auprès des Corinthiens. Eux qui croyaient voir tout juste et qui en étaient fiers.
Those Corinthians that were so proud of doing everything right.
Dieu nous préserve de jamais avoir cette attitude. Amen.
May God help us never to have that attitude.
Prions. Seigneur, merci que tu es notre Père.
Lord, thank you because you are our Father.
Et que tu disciplines ceux que tu aimes.
Lord, you discipline those whom you love.
Seigneur, tu nous donnes le choix de changer nos voies ou d'attendre ta discipline.
Lord, you give us the choice of changing the way of we live or to await your discipline.
Dans notre vie personnelle avec toi.
In our personal life with you.
Je prie que ce passage nous fasse réfléchir, nous fasse prendre conscience de peut-être de problèmes qu'il y a dans notre vie.
Lord, we just pray that this passage will remind us of problems that we have in our lives.
Et que si la discipline intervient, Seigneur, nous la recevions comme une bonne chose. Merci aussi, Seigneur, de nous aider à exercer cette discipline en tant que parents dans nos familles. Merci de ce que tu es là pour nous aider, Seigneur. Quand nous ne savons pas que faire.
We don't know what to do.
Et Seigneur aussi, merci pour veiller dans ton Église à cette discipline.
Lord, please look, see to this discipline also reigns in your church.
Merci des responsables.
Thank you for those that are responsible in this church.
Merci pour le discernement que tu donnes.
Thank you for the discerning that you give to them.
Pour reconnaître les loups des brebis.
And Lord, to be able to recognize the sheep from the wolves.
Pour reconnaître les choses qui sont simplement des péchés.
And to recognize things that are just sins.
Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nos familles, notre assemblée, Seigneur, pour que tu aies toute liberté d'agir, Seigneur.
We open our hearts, our families and our assembly to you, so you have total freedom to act in our lives.
Par le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
In the name of Jesus, amen.
Amen.